Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Cécile Brelot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Je suis avec Cécile Brelot aujourd'hui. Bonjour,
bonjour
Cécile.
Sarah.
Vous avez voilà. découvert notre invité du jour dans la Starac. C'était il y a 10 ans dans la promotion.
Il y a 10 ans ? Il y a 20 ans ?
Il y a 20 ans, je vous rajeunis. Dans la promotion devenue culte et notamment portée par Grégory Lemarchal. Elle est aujourd'hui journaliste et l'un des visages de PAF, le Bifort de TPMP. Bonjour Francesca Antoniotti.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV.
Merci.
Vous êtes donc chroniqueuse de PAF aux côtés de Pascal de la Tour du Pin sur C8. On va y revenir bien sûr dans l'interview, mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est aussi pour évoquer la Star Academy, émission dans laquelle on vous a découverte il y a donc 20 ans, et c'est la finale de la promotion 2023, ce sera sur TF1. Alors déjà, est-ce que vous avez regardé cette saison, Francesca ?
Ouais, bah forcément, il y a toujours un peu de curiosité, et puis c'est un programme que j'ai toujours aimé, dont j'ai jamais eu honte, et que j'adore.
J'ai jamais super... renié.
Non, jamais, jamais. Et surtout, j'étais super contente que ça revienne l'année dernière. Alors, il faut dire que l'année dernière, j'étais vraiment à fond. Là, un petit peu moins, parce que du coup, les allers-retours, souvent le vendredi, donc j'avais raté des primes, ensuite le samedi. Mais bon, j'ai quand même suivi
Les grandes lignes.
Voilà, les grandes lignes, il n'y a pas de souci.
Il faut préciser que vous vivez en Corse.
Voilà.
À Ajaccio.
Mais on a la télé. Hein. Non, je précise.
Angela Lorente, l'ancienne directrice de la télé-réalité de TF1, était à votre place cette semaine. Et elle estime que la promotion est un peu gentille, qu'il n'y a plus de forte personnalité qui se dégage. Même, il ne se passe plus grand-chose dans le storytelling, comme on pourrait dire, de l'émission. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ?
Ah, ça, c'est sûr que... Oui, on ne va pas dire que c'est les feux de l'amour.
Non, il n'y a pas d'histoire d'amour, mais oui.
C'est sûr que c'est peut-être un petit peu décevant. Après, il faut quand même reconnaître qu'il y a des super artistes. Et puis que c'est vrai que ça fait du bien aussi dans cette époque moderne de voir aussi des jeunes qui ne se mettent pas forcément sur la gueule, qui ne s'insultent pas, qui sont sympas. C'est aussi rafraîchissant.
Ouais.
Voilà, donc c'est sûr qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour, mais on ne va pas les forcer à s'aimer.
Non.
Mais,
Vous, c'était pas le cas. On va y revenir d'ailleurs sur les petites histoires d'amour qu'il pouvait y avoir dans votre promo. Il y en a eu. On va poursuivre cet entretien juste après les news médias de Cécile Brelot. Et d'ailleurs, on commence ce journal des médias avec une info qui concerne la Starac, puisque Michael Goldman serait en couple avec une professeure.
Donc, exactement, il y a quand même de l'amour dans l'air dans le château de Damary-Lévy. C'est une information qui nous vient de voici. Le directeur du télécrochet musical pour la deuxième saison consécutive serait en couple donc avec Lucie Bernadoni. La répétitrice du programme ex-finaliste de la saison 4 avait annoncé son divorce avec Patrice McTavish, qui est lui-même un ancien candidat du télécrochet quelques mois auparavant.
Bon, Francesca, vous étiez dans la promotion de Lucie. Vous confirmez cette info ? Vous êtes restée en contact avec elle ?
Je suis en contact avec elle, mais par contre, je ne suis pas du tout... je ne peux pas confirmer cette info. Mais si c'est vrai, c'est très bien pour elle.
Et alors, Lucie, elle a récemment révélé qu'elle avait vécu une histoire avec Grégory Lemarchal quand ils étaient tous les deux finalistes de votre saison. Est-ce qu'à l'époque, vous l'aviez remarqué ? Enfin, est-ce qu'il y avait déjà un rapprochement dans les premières semaines ?
Non.
Non ?
Non, franchement, non.
Ouais.
Enfin, tout le monde était rapproché, tout le monde s'aimait beaucoup, mais j'avais pas. Enfin, ils étaient. Non, j'avais vraiment pas.
Ouais. Et alors, il y avait quelques couples dans votre saison, Karima et Harlem, Sofiane et Sandy. Et vous, est-ce que vous avez flirté avec.
Non.
Non. Enrique, non
Non, il n'y a plus. Non, franchement, non.
Ah, il n'y avait pas. Il n'y avait rien.
Non.
Vous démentez toutes les rumeurs.
Ah oui, non.
Ok, vous étiez sage en fait. Hein.
On n'était pas forcément sages, mais on était plutôt grande gueule, on ne se laissait pas faire. Mais après, sur le reste... Non, mais c'est sûr qu'il se passait beaucoup plus de trucs qui s'en passent maintenant.
Oui, on l'a dit tout à l'heure. Cécile, on poursuit ces infos avec Delphine Vespizer, qui n'a pas caché son affection pour Jordan Bardella.
Exactement, donc l'animatrice de L'Île de la Tentation est tombée sous le charme, puisqu'elle n'a pas taré d'éloge sur le député européen au micro de Sud Radio jeudi matin. Je cite, j'adore Jordan Bardella, je trouve très intelligent, brillant. Je pense qu'il a un avenir présidentiel. Une déclaration qui a provoqué un silence dans le studio. Pourtant peu connu pour avoir la langue dans sa poche, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a poursuivi en estimant que physiquement, le bras droit de Marine Le Pen était le gendre idéal. Homme impertinent tout en restant poli.
Bon, c'est un soutien qui lui a valu quelques critiques. Est-ce qu'on peut tout dire, Francesca, à la télévision aujourd'hui, sans qu'il y ait de conséquences ? Vous avez peut-être été victime il y a quelques années quand vous avez apporté votre soutien à Pierre Ménès. Vous étiez d'ailleurs venu nous voir sur ce plateau. Vous aviez raconté qu'il vous avait embrassé lors d'un enregistrement, mais que vous ne considériez pas ça comme une agression.
J'avais rien raconté. On m'avait ressorti des images qui dataient et j'avais simplement dit que pour moi, je ne l'avais pas ressenti comme une agression. Voilà. Ouais. Après, tout dire, non, je pense que chacun dit sa vérité. Après, sur le côté gendre idéal, je pense que...
Vous n'êtes pas du même avis ?
Ouais, voilà, bon, après, mais chacun pense ce qu'il veut. Chacun sa définition du gendre idéal, on va dire.
Voilà. Vous vous engageriez comme ça en politique pour un candidat, une candidate, comme le fait Delphine Vespizer, là, sur Sud Radio ?
Ben là, dans tous les candidats que je vois, non.
Personne...
Mais la politique, je trouve ça passionnant. Et peut-être que j'y viendrai. Plus tard. Mais je trouve ça passionnant. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, il n'y a personne qui me représente, qui représente ce que je pense.
Ouais. Et oui, vous pourriez vous engager en Corse, par exemple, dans votre région d'origine.
Ouais, j'adorerais ça.
Pourquoi pas, vous viendrez nous en reparler, Francesca. On termine ces infos, Cécile, avec le chiffre du jour, c'est le 6.
Exactement. Donc, c'est pour le salaire perçu par Christophe de Chavannes à ses débuts sur TF1, dans son autobiographie intitulée Sans transition. L'acolyte actuel de Léa Salamé, dans quelle époque a révélé son premier salaire lorsqu'il avait débuté sur la chaîne privée dans la fin des années 1980. Donc une somme à 6 chiffres pour 300 000 francs à l'époque, donc l'équivalent de 90 000 euros aujourd'hui, touché chaque mois par l'animateur qui était aux commandes d'une quotidienne qui durait 2 heures.
Ah ouais, c'est ça. On le sait, dans ces milieux, il y a aussi des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Vous, Francesca, est-ce que vous faites attention à ça quand vous négociez vos prestations pour PAF, par exemple, sur C8 ?
Non, alors moi, je sais absolument pas parler d'argent, c'est vraiment un truc qui moi me...
Ouais, c'est
je sais
tabou
pas faire.
Pour vous.
C'est pas que c'est tabou, c'est que je sais pas faire. Moi, on me dit ça, j'ai ok. Je peux pas.
Vous négociez pas.
Ah non. Mais par contre, j'ai jamais été concernée par ce genre de somme.
Vous n'avez jamais gagné ça pour un mois.
Ni de près, ni de loin, ni sur un an, ni sur plus un temps.
Le 3 septembre 2004, vous entriez au château de la Star Academy à Damary-les-Lys. Vous aviez 23 ans à l'époque, étudiante en commerce, c'est bien ça. Vos copains s'appelaient Mathieu, Karima, Oda, Sofiane, Lucie et Grégory. S'il y avait un souvenir, le meilleur à retenir, ce serait lequel, Francesca ?
J'hésite, je dirais peut-être la première fois, le premier jour, ce 3
L'entrée.
Septembre justement. Voilà,
au
parce que jusque-là, je pensais pas que c'était réel. Et en fait, le fait d'arriver sur le plateau, là, je me suis dit, c'est bon, ils peuvent plus m'enlever. Parce que jusque-là, les castings avaient été tellement longs, nous avaient tellement fait patienter, il y avait tellement une suspense, et ces longs mois où on savait pas si on allait le faire ou pas, du coup, le 3 septembre, j'ai dit, ça y est, ils peuvent plus me sortir. J'ai une semaine, là, je vais quitter. Voilà. Donc
qui vous a inscrite d'ailleurs au casting tout de suite?
Ça faisait des années que j'avais envoyé ma cassette, j'avais même essayé la nouvelle Star, et puis finalement, ils m'avaient dégagé. Et la Starac, j'ai envoyé ma cassette une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, ils m'ont dit, allez, vas-y. Viens passer le casting, c'est bon. Ouais. Donc, c'était moi.
Et votre pire souvenir, s'il devait y en avoir un ?
Le pire souvenir, franchement, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Tout a été génial.
Magique.
La sortie,
à l'époque, des stars venaient chanter avec vous, Julio Iglesias, Phil Collins. Est-ce que vous pouviez les approcher en coulisses et échanger avec eux ?
En fait, on n'était pas du tout dans le même endroit. On avait une coulisse, c'était carrément un bâtiment pour les élèves et les stars et les familles étaient dans dans un autre bâtiment. Mais en revanche, on les croisait en répétition. On avait quand même des moments
des interactions.
Des interactions. Moi, je me rappelle, j'ai vu Beyoncé.
Mais oui, avec les Destiny's Child à l'époque.
Ah ouais, moi je l'avais vu. Je l'avais demandé si sa veste était une grande marque qui commence avec un C. Et elle m'avait fait non. J'ai fait ok.
C'est tout.
J'étais partie. J'avais dit bon, super. Super. Je vais me rappeler. ça, c'était un bel échange vraiment de, voilà, d'artiste à artiste.
Bon, c'est voilà. Peut-être pas le bon jour. Non, et vous avez eu un duo qui est resté dans votre mémoire, un joli duo avec un artiste.
Ouais, alors joli peut-être dans ma tête, mais après c'était pas forcément ma meilleure presta.
Bon, pourquoi ?
Mais c'était mon idole d'enfance, c'était la rapa aussi. J'avais écouté La Solitudine depuis que j'étais toute petite et je m'étais dit un jour je chanterai avec elle dans mes rêves. Et en fait, elle arrive et je chante avec elle cette chanson magnifique. Et je pense que j'étais absolument pas à la hauteur. Et il y avait un orchestre philharmonique en plus derrière, donc il y avait 75 musiciens qui me faisaient ah. Mais bon, pour moi, j'ai passé un moment magique.
Votre promotion est très connue puisque c'est celle de Grégory Lemarchal.
Ouais.
Est-ce qu'on croit encore, à l'époque, à des chances de victoire quand on est face à lui ?
Non, pas du tout. Non, on a vu dès le 3 septembre, on savait qu'on n'allait pas gagner.
Ah ouais ? Vous l'avez senti tout de suite, ça ?
Ah ouais.
Même à l'intérieur du château ? Ouais, vous le
perceviez ? On n'a pas attendu l'intérieur du château, c'est-à-dire qu'il est arrivé sur scène, on l'a entendu chanter, on a entendu son histoire, on avait tous des frissons, les larmes aux yeux, on a dit bon, là, il y a un gagnant, il est évident. Ce serait même fou qu'il ne gagne pas, quoi. Ce serait injuste. Donc, on l'a simplement accompagné.
Ouais.
Voilà. Et avec joie. Enfin, c'était génial, quoi.
Oui.
C'est génial de faire partie de son histoire.
De cette promotion. Et alors, vous avez quitté le jeu, j'ai noté, le 13 novembre 2004.
Ouais. Et j'y suis retournée.
Deux mois, hein, quand même, d'aventure. Et vous y êtes retournée.
Ouais.
Exact.
Oui, parce que ça manquait d'ambiance. Après, ils nous ont rappelé.
Vous voyez, mettez l'ambiance. Voilà. Et moi, je me demandais comment ça s'est passé, la sortie. Est-ce que c'était pas trop dur quand on est comme
très
ça, balancé dans la fosse aux lions, quelque part ?
Très, très, très dur. On met des années à s'en remettre, je pense.
C'est
vrai. Et je pense qu'on prépare pas assez les jeunes qui font ce genre d'aventure à l'après, parce que c'est un tourbillon extraordinairement flippant. Parce qu'en fait, on vit de telles émotions qu'ensuite, on cherchera à tout prix à les revivre, ces émotions. Et donc, on peut facilement se perdre, on peut facilement tomber dans des excès, on peut facilement se retrouver à la merci de n'importe qui va nous proposer une carrière, machin. Donc, je pense que vraiment, il faudrait qu'il y ait vraiment...
Bien entouré.
Ouais. Oui, mais eux, ils ne nous entourent pas. Je dis pas que... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, qu'on soit beaucoup mieux préparé, faire beaucoup plus attention au casting, aux personnalités qui sont prises ou pas. Est-ce que les gens sont prêts, parce que souvent, ils sont trop jeunes. Souvent, ils n'ont pas la famille qu'il faut ou la famille est loin. Donc, je pense que c'est un moment très compliqué, l'après.
Ouais. En parlant de l'après, vous étiez étudiante en commerce quand vous êtes entrée à la Star Academy.
Oui. Puis, assez peu, on ne va pas se mentir.
Et vous êtes devenue animatrice télé et journaliste. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas souhaité persister dans la chanson ?
Je pense que c'est pas moi qui ai pas souhaité. C'est-à-dire que moi j'avais mon petit garçon, fallait que je gagne ma vie. J'ai très vite compris que j'allais pas devenir Beyoncé. J'avais un contrat chez Universal, je l'ai récupéré. J'ai signé dans une autre maison de disques. J'ai tenté. J'ai vu que ça marchait pas. Je me suis dit quelle est ton autre option ? Mon autre passion c'était le football et le sport.
Ouais.
J'ai appelé toutes les chaînes de sport, je les ai contactées, j'ai commencé à bosser assez vite et ça marchait bien. Donc je me suis dit voilà une autre chance.
Ouais. Et on parlait tout à l'heure donc de Grégory Lemarchal qui s'est éteint en mai 2007 des suites de la mucoviscidose, maladie dont il était atteint. Comment vous l'avez vécu, même avec l'ensemble de la promotion ?
Ça a été très compliqué. On savait tous qu'il devait mourir jeune. C'était les pronostics de la mucoviscidose à l'époque. Grâce à Dieu, les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais c'est vrai que c'était pas concret pour nous. On savait pas quand est-ce qu'il allait partir. On savait qu'il était à l'hôpital les derniers temps. Ça a été assez terrible. Et,
vous vous souvenez où vous étiez ce jour-là ?
Oui, je me rappelle. Je me rappelle, j'étais chez moi, j'ai reçu un coup de fil de Karima qui m'a annoncé la nouvelle.
Et j'imagine que ça a dû vous souder aussi, cet événement.
Il y a une histoire particulière, mais on n'avait pas besoin de ça pour être soudés. Évidemment, c'est un destin un peu particulier.
Parce que vous disiez être resté en contact avec Lucie. Est-ce que vous êtes resté en contact avec l'ensemble de la promo ? On a appris que, par exemple, la promotion de la Star Act 2 se voyait au moins une fois par an. Est-ce que vous, par exemple, c'est ce que vous essayez d'organiser avec votre promotion ?
On ne s'organise pas des trucs forcés, mais par contre, il y a certaines personnes avec qui on est resté très proche. Moi, Karima, c'est vrai que j'ai été très très proche d'elle. On s'est beaucoup vus, elle venait beaucoup en Corse et tout ça. Enfin voilà, donc on a gardé une très bonne relation. Lucie, je la voyais moins, mais par contre, c'est vrai qu'on avait des petits messages de temps en temps, et puis on s'est revus quelques fois dernièrement, puisqu'on a fait des événements aussi pour Greg, et puis on a fait... Enfin, de temps en temps, il y avait des trucs qu'on organisait, et voilà, et des concerts où on se revoyait. Il y a Sofiane aussi que j'aime beaucoup, mais voilà, on s'est pas forcé à se dire
oui,
les réunions des anciens.
Oui, il y a pas une date chaque année.
Voilà, non. non.
Et alors aujourd'hui, Francesca, on vous regarde dans PAF, qui est le Bifort de TPMP, présenté par Pascal de la Tour du Pin sur C8. On vous voit une à deux fois, trois fois, parfois par semaine. Comment vous vous sentez dans cette émission?
Bien. C'est super. Ouais. Franchement, c'est très agréable parce que Pascal, elle est vraiment adorable.
Ouais.
On parle un petit peu de tout. Elle donne la parole. C'est vraiment une femme avec qui c'est agréable de faire des émissions.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup travailler avec des femmes. J'ai adoré bosser avec Estelle Denis, avec Valérie Benaïm. J'aime bien être à côté. J'aime bien accompagner. J'aime bien être chroniqueuse.
Présenter, non, c'est pas des ambitions que vous avez.
Je l'ai fait un peu dans le foot et. Je trouvais ça chiant parce que tu peux pas trop donner ton avis, tu peux moins être incisive. Et puis je trouve qu'il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi, et notamment Pascal. Donc moi j'aime bien être à côté, j'aime bien être le sniper. Et voilà, c'est un rôle qui me va bien et dans lequel je me sens bien.
À plus grande échelle, est-ce que vous aimeriez, parce que vous êtes beaucoup dans les biforts, notamment là on parle de PAF, est-ce que vous aimeriez être chroniqueuse, donc accompagnée, mais dans Touche pas à mon poste par exemple?
Je l'ai fait très longtemps, je l'ai fait quand même
ça
beaucoup.
Ça vous donne pas envie de le refaire?
Non, c'était super, mais après je pense que ça doit tourner. Après, c'est clair que je suis là quand on m'appelle, hein, mais je pense que là il y a une équipe qui est super en plus, donc voilà.
Ouais. Avec qui vous entendez le mieux parmi les chroniqueurs?
Alors, ça fait à chaque fois bon dire, mais moi, je m'entends très bien avec Gilles. J'adore Gilles.
Avec Gilles Verdez.
Gilles Verdez, parce que je l'ai connu dans le foot. Et donc, on se connaît depuis presque 20 ans maintenant.
Ouais.
Et il a toujours été gentil et il est complètement l'opposé de ce qu'il montre à l'antenne.
Ouais, c'est un sacré personnage, hein, franchement, qui est clivant. Soit on l'adore, soit on le déteste.
Ben, on l'appelait le procureur dans On refait le match avec Eugène Saccomano. Et moi, il a toujours. Alors qu'il y avait des personnalités qui étaient très rudes et avec qui c'était très compliqué de travailler dans le football parce qu'ils étaient misogynes. Ouais. Et voilà. Et ben lui, il a toujours été sympa. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends bien.
Et le chroniqueur avec lequel vous vous entendez un peu moins bien?
Ben franchement, après, il n'y a personne avec qui j'ai eu de conflit, donc vraiment, franchement, jamais.
Bon.
Mais après, je suis un peu sauvage, moi, donc
c'est vrai que vous venez,
je parle avec Gilles parce que je le connais depuis longtemps, mais après, je ne tape pas dans le dos de tout le monde, voilà, je suis un peu...
Mais justement, vous avez une remarque de anciens confrères qui avaient eu parfois des remarques un peu misogynes, vous aviez même déclaré que ça vous avait fait parfois partir de certains médias. Qu'est-ce que vous pensez de certaines remarques, par exemple, de vos amis chroniqueurs dans Touche pas à mon poste sur certains débats, notamment des débats qu'on a pu avoir sur le sport féminin et la Coupe du Monde récemment?
Genre quoi, ils ont dit?
Ils ont fait par exemple des débats sur Daniel Riolo en se demandant si avec ses propos sexistes, il y a eu plusieurs propos qui n'étaient pas vraiment en faveur de la cause féminine que vous pouviez défendre. Qu'est-ce que vous pensez?
Non, mais moi, je suis pas spécialement féministe, hein, par contre.
Non.
Moi, je me suis jamais revendiquée comme telle. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Daniel. Daniel, il peut être un peu viril, mais correct. Voilà. Et alors, parfois, il peut être très agaçant, mais c'est quelqu'un avec qui c'est génial d'avoir du débat parce que justement, c'est jamais plat. Voilà, donc moi j'aime bien quand il y a du débat, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord.
Et il y en a chez Cyril Hanouna. Oui. Et quel patron il est, Cyril Hanouna?
Il est, on va dire, la carte famille. C'est-à-dire qu'on peut toujours compter sur lui. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où je me suis peut-être un peu éloignée, justement, parce que, voilà, des moments compliqués et tout. Et à chaque fois, quand je lui ai demandé de revenir, ou voilà, bah,
il a toujours été là.
Lui et Lionel Stan, qui est le directeur de l'antenne. Des productions H2O, pardon. Et ben, ils ont toujours été là et toujours... Voilà, ils tendent la main, quoi. Donc ça, c'est agréable, vraiment.
Et est-ce que vous avez regardé le complément d'enquête qui le concernait?
Ah non, je ne suis pas dans les... On ne me montre pas les... complément d'enquête sur Cyril? Non, je ne l'ai pas vu.
Oui. Vous ne l'avez pas regardé?
Non, je ne l'ai pas regardé. C'était un peu tard, je crois.
Parce que moi, c'était à 23h.
Voilà.
Mais il y a des replays.
Ouais. Non, mais alors après, il y a des images qui sont passées, mais par contre, je n'ai rien vu de...
Oui,
ça m'a pas, je me suis pas dit oh waouh. Wow, ouais.
On n'apprenait pas grand chose, c'est vrai, c'est ce qui est sorti
Ou alors il y a des trucs qui m'ont échappé, mais et j'ai eu un peu la flemme de me faire un replay, mais
vous n'avez pas regardé?
Non, je le vois, j'en profite, j'y arrive tous les jours, je vais pas regarder en plus des replays.
et alors on vous a vu aussi aux Grosses Têtes en septembre dernier.
Ouais.
Vous y allez de souvent, régulièrement, à quelle fréquence?
Non. Alors je peux dire que maintenant que je suis sociétaire des grosses têtes.
Et ça,
voilà. Mais non, mais j'y suis pas régulièrement. Alors je sais qu'il a beaucoup de gens à faire tourner et tout ça.
Vous êtes nombreux.
Ouais. Mais j'espère que je vais y retourner bientôt.
Et comment s'est passée votre première expérience ?
Mais c'était super. Ouais. Ouais, franchement, je me suis sentie à l'aise. Après, il y a tellement d'énormes personnalités. Ils sont tellement...
Ça ne doit pas être évident d'envoyer une vanne.
Bah oui, c'est-à-dire que j'avais peur d'aller trop fort. Donc, je me suis dit, on va dire, mais pour qui elle se prend ? Et en fait, voilà. Donc, j'aurais dû peut-être y aller un petit peu plus fort. Mais bon, en tout cas, c'est génial.
Ouais. Alors, à votre place, Christophe Barbier est venu nous voir pour parler de sa pièce de théâtre qu'il joue actuellement au Théâtre de Passy. Il vous a posé une question, Francesca. Donc, je vous propose de regarder et puis, bien sûr, d'y répondre ensuite.
D'accord.
Si je ne me trompe pas, elle est corse.
Absolument.
Alors, je voudrais lui demander, chère Francesca, l'autonomie corse est en négociation entre le gouvernement et les autorités insulaires. Quel sens lui donneriez-vous ? Et seriez-vous d'accord avec moi si je dis que sans la France, la Corse n'a pas d'avenir, et sans la Corse, la France n'est plus rien ?
On va vraiment partir sur ce terrain-là, parce que là, par contre, ça risque d'être très très long.
Ah oui.
Je vous dis vraiment ce que je pense, voilà. Je pense que effectivement sur certains points on a besoin de la Corse, on a besoin de la France, mais que sur d'autres points la Corse est en train d'être un petit peu diluée et qu'il y a un petit peu trop de France en Corse. C'est-à-dire que je pense qu'on doit garder notre identité et on doit vraiment se battre pour ça, parce que notre force, ben justement, c'est notre langue, c'est notre culture, c'est notre gastronomie, c'est nos vins. C'est justement, il faut qu'on garde la Corse aussi aux Corses.
Donc, vous seriez pour l'indépendance, enfin.
Oui, mais avec certaines conditions. C'est-à-dire que je pense que, évidemment, sans quelques aides de l'État français, je pense que pour l'instant, tout de suite, faire le saut comme ça dans le vide, ce serait un petit peu compliqué. Donc, je suis pas totalement radicale, mais je pense qu'en revanche, il faut plus préserver la Corse
et son identité, qui est forte et qu'on adore d'ailleurs.
Voilà.
On adore les Corses et la Corse. On vous garde quelques instants, Francesca, pour notre dernière rubrique au suivant. Nous recevons Thomas Misraki, qui est journaliste à TF1 et qui sort un livre qui fait déjà beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il évoque notamment la fin de vie et il révèle qu'il aimerait recourir au suicide médicalement assisté après ses 75 ans. Vous, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Vous êtes déjà posé cette question sur la fin de vie ?
Évidemment,
parce que vieillir fait peur, finalement.
Oui, mais bon, plus on y va, moins on se dit qu'on a envie que ça s'arrête. Et surtout pas de se dire à telle date, je vais recourir à un suicide assisté. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas les choses comme ça. Je suis pleine d'espoir. Je me dis que pourquoi pas, ils vont trouver un truc génial qui va faire qu'on aura l'air beaucoup plus jeune et qu'on sera en pleine santé. Mais j'ai envie d'être positive. Moi, je suis plutôt optimiste. Donc, j'ai pas du tout envie de me dire il y a une date butoir et surtout d'y penser, parce que elle serait très proche.
Sujet chez vous de vieillir à l'image. On sait qu'au cinéma, pour les femmes, c'est compliqué. À la télévision aussi, toutes les animatrices, journalistes qu'on reçoit nous le disent. Est-ce que vous aussi, ça vous questionne ?
C'est très dur, surtout que on voit son image, on s'analyse, on est jugé. Donc, on essaye de se détacher avec les années. Moi, je m'étais toujours dit, il y a un moment où je vais basculer en physique radio, donc il faudra...
Vous êtes magnifique, Francesca.
Mais après, faut s'y relâcher, quoi. C'est pas non plus... On sauve pas des vies, et puis il faut arrêter de se regarder un petit peu, je pense.
Ouais. Voilà.
Par exemple, Sophie Davant a récemment révélé avoir eu recours à de la chirurgie esthétique sans tabou. Est-ce que vous avez déjà eu recours ? Est-ce que vous pourriez le faire ?
Alors moi, je l'ai déjà dit, j'ai fait du Botox et en fait, j'étais complètement ratée. C'est-à-dire que j'avais l'air énervée, j'avais les sourcils en l'air. Du coup, les gens me disaient « ça va pas ?» Je disais « mais ça va très bien ». Ils disaient « mais pourquoi t'es énervée ?» Je disais « mais je suis pas du tout énervée !» Parce qu'en fait, j'étais comme ça. Donc non, moi, je suis pas là tout de suite pour. En revanche, je pense que très vite, je suis pas du tout dans le jugement. Moi, j'aimerais bien faire les paupières. J'aimerais bien faire dans 10 ans, pourquoi pas, mais enfin, je suis vraiment pas du tout contre, quoi. Je pense qu'après, il faut pouvoir céder un petit peu. Il y a des mecs qui bossent là-dessus jour et nuit, donc autant s'en servir, quoi. Tu vois, après, de la chirurgie, j'ai jamais voulu me faire des gros tétés, me faire comme ça. Bon, mais c'est un choix. Je juge pas du tout les femmes qui le font.
Et vous estimez qu'il existe encore aujourd'hui des diktats à la télé de la minceur? douceur, de la beauté, selon vous? Est-ce qu'on on a beau dire le body positive, c'est un peu la grande mode.
Le body positive, il n'existe absolument quasiment pas,
oui.
On va pas se mentir.
Je suis assez d'accord avec vous.
On regarde des magazines de mode, quand il y a une femme qui a plus de 40 ans, on dit « elle s'assume à son âge !» Ça va, oui, elle ne va pas se suicider, elle a 42 ans ou 45 ans. Enfin, non, il n'y a pas du tout de... Enfin, vraiment, j'ai l'impression que parfois, on nous met comme ça des petits écrans de fumée pour nous endormir, mais le body positive, il n'existe pas du tout.
Et il y a encore des dictates à la télé.
Évidemment, oui.
De la minceur, vous l'avez déjà, on vous a déjà mis la pression sur votre apparence?
Non, pas la pression, mais moi, je me suis pris, moi, quelques remarques. Mais moi, je suis convaincue que si j'avais eu 15 ou 20 kilos de plus, j'aurais pas fait la Starac, par exemple.
Ah, vous croyez?
Bah oui. Parce que j'étais pas la calasson plus, on va pas se mentir. Donc oui, je pense qu'après, il faut être honnête. Ouais. Même dans le foot, j'aurais pas du tout fait ce que j'ai fait si j'avais eu beaucoup plus de poids en plus, je pense.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites.
C'est, c'est honnête.
C'est honnête et peu de femmes peut-être le disent dans ce sens.
Là, elles sont faux cul, alors. Parce que,
non, mais bon. Voilà. C'est à vous, Francesca, de poser une question à Thomas Misraki. C'est
attends,
à vous.
Droite, gauche, j'ai pas mon permis. cher Thomas, je sais que vous écrivez un livre sur un sujet qui est très grave. Alors moi, pour détendre un peu l'atmosphère, je voudrais vous demander de raconter une petite blague.
Ah ben, on a hâte de la découvrir, en tout cas la blague de Thomas Misraki. Merci.
C'est une femme qui va mourir.
On verra, on vous la fera passer. Ouais. Merci Francesca Antoniotti.
Merci à vous.
Je rappelle qu'on vous retrouve aux côtés de Pascal de la Tour du Pin, c'est dans PAF, sur C8. Et puis si vous avez...
Tout à l'heure, là, j'y vais.
Et vous y allez, vous avez enregistré avant de rejoindre la Corse, votre terre natale.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.